Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence PEC Focus qui va traiter donc aujourd'hui de la résilience des SI. Et donc nous allons à travers en fait ce point d'actualité vous présenter donc à travers un format qui va durer 45 minutes, donc ce focus sur la résilience des SI avec une présentation qui va durer 30 minutes, suivie donc d'une session de questions-réponses d'un quart d'heure. Et enfin, à la fin, nous vous demanderons, s'il vous plaît, en fait, de bien vouloir répondre à l'enquête satisfaction qui apparaîtra et que vous pourrez donc remplir en live. Donc, aujourd'hui, pour traiter la résilience donc des SI, qui est un sujet lié au risque informatique d'un point de vue général, nous allons être trois intervenants que je vais laisser se présenter. Donc, au-delà de moi-même, donc Jean de la Forcade, donc qui suis associé donc sur les risques technologiques. Donc, je vais vous laisser rencontrer donc les deux autres speakers, Romain et Nicolas, à qui je donne la parole.
Bonjour à tous, ravi d'être là. Je m'appelle Romain Camus, donc je suis associé en charge de l'animation de nos activités en gestion des risques technologiques pour PwC en France. J'interviens depuis un peu plus de 18 ans dans l'univers des services financiers. Donc moi, ce matin, je vais vous parler des enjeux de résilience IT, spécifiquement pour le monde bancaire.
Bonjour à tous, Nicolas Demoulin, ravi d'être là également. Donc moi je suis manager spécialisé en gestion des risques informatiques chez PwC. Donc j'ai un peu moins d'une dizaine d'années d'expérience. J'interviens principalement dans les services financiers, mais également dans le secteur public, notamment dans la protection sociale et pour divers types d'industries. Donc aujourd'hui je vous présenterai les challenges opérationnels de la résilience des systèmes d'information, et surtout les risques à négliger ces aspects.
Voilà. Donc merci Nicolas, Romain. Donc le but effectivement c'est de vous présenter en fait déjà revenir sur les enjeux liés à la résilience des SI, donc qui font partie donc des risques, et notamment Romain parlera à ce titre des enjeux en lien avec les risques opérationnels donc dans le secteur bancaire. Et donc nous allons vous faire un focus et plus particulièrement revenir sur le principe donc même de la résilience des SI. Donc à titre d'introduction, il faut bien savoir qu'aucune entreprise n'est à l'abri donc de sinistres, de panne ou d'éléments internes ou externes qui peut impacter donc son système d'information. Au cours en fait des dernières en fait semaines, nous avons aussi eu un sujet sur la cyber-résilience dont nous parlerons aussi, avec notamment les ransomware qui reviennent comme un sujet clé pour les entreprises. Et donc le sujet va bien être pour les entreprises qu'elles puissent faire face à tout type d'incident, significatif ou non, qui puisse donc lui permettre de faire face à ces perturbations et donc, à travers l'agence DSI, de garantir donc une robustesse de son système d'information. Les entreprises donc doivent pouvoir évaluer le risque informatique et anticiper ces incidents. Et notamment, nous avons voulu illustrer un exemple qui est que, au cours donc des précédentes années, on a des organisations qui ont été confrontées à ces problèmes et qui ont été amenés par la suite à mettre à jour leur dispositif de gestion des crises suite à un retour d'expérience en lien avec un incident interne ou externe. Et ce qu'il faut bien voir au travers de la résilience des SI, c'est que la gestion de crise ou l'activation d'un plan de secours, par exemple informatique, doit arriver en dernier recours si la résilience des SI, justement, n'a pas permis de faire face à ces problèmes. Donc, on va réellement être à travers donc le sujet de la résilience des SI, sur la partie amont, comment est-ce qu'on fait face à un sinistre, un problème d'exploitation, à une crise cyber. Et donc, c'est ce que doit amener donc la résilience des SI, c'est cette robustesse pour faire face à des problèmes à l'origine, donc qui vont survenir et qui doivent donc éprouver le SI et lui permettre d'être, je dirais, robuste. Donc, qu'est-ce que la résilience des SI? La résilience des SI, en fait, ça désigne tout le dispositif ou la capacité d'une organisation avoir une infrastructure qui va être robuste à travers l'architecture de son SI, à travers les moyens de répondre à des problématiques, des incidents, la gestion des incidents, la gestion des problèmes, et donc comment faire face à tout événement, je dirais, qui va survenir de façon inopinée et qui va permettre à l'organisation de revenir à un état de fonctionnement normal ou nominal, et donc de garantir une continuité de son activité. Notamment parce que toutes les activités maintenant des entreprises reposent sur le système d'information et donc sa robustesse et sa résilience permettent justement de ne pas avoir de perturbations liées à des pertes d'exploitation, la continuité de service, notamment en général. Et donc, si on regarde notamment en fait les entreprises, on a actuellement donc, si on prend en fait par rapport à des études notamment liées au Crédit Survey, on a 75% des organisations qui ont été en fait touchées par des pannes, des sinistres, autres. Et parmi ces 75%, on avait notamment une partie non négligeable qui était liée à des problèmes informatiques. Donc, pourquoi est-ce que la résilience est d'autant plus importante actuellement? Je parlais en fait effectivement de suivi et résilience. On a maintenant des risques externes, cyberattaques, ransomware, des menaces internes, des événements géopolitiques, la pandémie liée au Covid-19, pour laquelle nous ferons aussi un point de focus, qui mène justement à éprouver les entreprises et à obliger en fait les entreprises à faire face à des perturbations inopinées et donc à définir des scénarios et à améliorer donc la robustesse et donc la résilience donc de leur SI. Plus particulièrement, donc nous avons réalisé en fait une étude au cours du printemps et de l'été donc 2020 sur donc la résilience des SI. Cette étude est disponible sur notre site internet. Vous pouvez aller la télécharger dans sa version globale. Et si vous souhaitez notamment participer à une future étude, puisque nous avons vocation notamment à actualiser ces études sur un rythme annuel, n'hésitez pas en fait à vous manifester pour participer et donc faire l'objet donc d'interviews pour actualiser cette étude. Si on revient donc sur la crise Covid, qui est donc nous vivons toujours actuellement, mais qui a été plus particulièrement prééminente et qui a éprouvé les systèmes d'information au moment notamment du premier confinement en France, c'est-à-dire au printemps, on a eu une prise de conscience du sujet de la résilience des SI en lien avec sa crise Covid. Donc, par rapport au panel de personnes qui avaient été sollicitées par rapport à cette étude, on a 86% des répondants qui ont estimé justement que cette crise Covid et cette tension sur les SI avaient mené à renforcer les enjeux de résilience des SI dans les organisations. En parallèle, nous avions aussi, au niveau des répondants, 35% d'entre eux qui avaient estimé qu'au moment de la survenance donc du confinement et du recours à un travail à distance de façon massive, 35%, donc un peu plus d'un tiers des infrastructures informatiques, n'étaient pas adaptées à l'usage du télétravail massif. Et donc, les entreprises n'avaient pas été capables de basculer ou, je dirais, sans qu'il y ait de perturbations plus ou moins fortes, d'arriver donc à gérer ce cas particulier, qui n'avait pas nécessairement été notamment prévu par rapport à des plans de secours informatiques qui prévoyaient surtout, par exemple, des sites de repli, et alors que là, on se retrouvait justement non pas à avoir une capacité de retrouver des outils de travail dans un site distant, mais à se retrouver donc à travailler tous depuis notre domicile. Et justement, notamment, en gros, une entreprise sur cinq a jugé que son dispositif de résilience avait été satisfaisant pour affronter, je dirais, cette crise liée au Covid de manière sereine. La plupart du temps, les cas ont été assez simples. Il manquait des postes de travail nomades. Les systèmes pour le travail collaboratif n'étaient pas disponibles. On n'en avait pas de système de type VPN pour se connecter à distance et travailler de façon sécurisée. Tout un ensemble, en fait, de principes basiques n'avait pas été pensé pour pouvoir basculer massivement avec du travail distant. Et donc, la résilience des SI a été mise donc sur le devant de la scène et donc revêt donc un nouvel enjeu pour les entreprises, en tout cas de façon plus prééminente qu'elles pouvaient avoir par rapport précédemment, je dirais, à cette crise Covid. Je vais laisser la parole donc à Nicolas pour faire un focus justement sur les enjeux de résilience.
Merci Jean. Donc effectivement, cette résilience des systèmes d'information, elle vient avec un certain nombre de challenges opérationnels pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises, aujourd'hui on le voit, ont des difficultés à la fois à identifier leur panel de ressources informatiques, identifier précisément les applications qui sont nécessaires au bon fonctionnement de leurs opérations, mais également des difficultés à sécuriser ces couches techniques, ces couches informatiques, et pour finir, à proposer une réponse en cas d'incident avéré. Un premier point qu'on a illustré ici concerne ce qu'on appelle l'identification des dépendances. Donc, par identification des dépendances, on entend comment, en tant qu'entreprise, je suis à même d'identifier de façon précise les applications informatiques, les logiciels, les serveurs, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de mon activité. Aujourd'hui, nous évoluons dans un environnement où les entreprises font appel à un certain nombre de ressources. Par ressources, j'entends des logiciels qui peuvent être soit hébergés dans leurs locaux, soit hébergés dans des data centers externes ou, tendance plus récente, des solutions cloud qui, pour le coup, sont à la main d'éditeurs tiers. Donc, il y a une vraie difficulté aujourd'hui pour les entreprises d'identifier précisément ce qui est nécessaire et requis pour la bonne conduite, le bon fonctionnement des opérations. Et c'est notamment dans ces aspects qu'on intègre toutes les problématiques qu'on appelle de shadow IT, donc de difficultés à identifier des ressources informatiques clés, mais malheureusement souvent inconnues, notamment dans les grosses structures, des équipes métiers, voire du management. Donc cette identification de ressources informatiques, elle doit permettre, donc ça c'est un autre challenge, d'identifier les différents risques opérationnels, les risques informatiques et leurs impacts sur les opérations, leurs impacts potentiels en cas de problème, de façon à avoir une vision la plus fine possible des perturbations auxquelles on peut, en tant qu'entreprise, être exposé. Donc ces risques, cette identification des dépendances permettent d'avoir une vision la plus exhaustive possible de son environnement, qui va être nécessaire à des investissements, je dirais, mesurés, adaptés, dans ses actifs informatiques, dans l'architecture de son système d'information, dans son dispositif de prévention des problèmes, mais également, par exemple, dans son processus de gestion des changements, son processus de développement informatique, pour s'assurer que la résilience informatique est finalement insufflée dans toutes les couches du système d'information. Notre message ici, c'est que la résilience informatique, ce n'est évidemment pas qu'un sujet de sécurité. Pour autant, ce n'est pas qu'un sujet de gestion des développements non plus. Donc, c'est bien une approche holistique, intégrée, qui nécessite d'inclure dans chaque aspect, dans chaque processus de la DSI et de l'entreprise, des mesures adéquates pour renforcer les différentes couches du système d'information. Parmi ces mesures, on observe parfois des difficultés chez les entreprises à tester, à fiabiliser la robustesse de leurs environnements, donc qu'ils soient internes ou externes, ce qui pourrait et qui devrait se faire via des exercices qu'on appelle de stress testing, pour finalement, au niveau des équipes opérationnelles d'une DSI, par exemple, mettre à l'épreuve des couches techniques, des serveurs, des logiciels pour observer leur façon de réagir en cas de, par exemple, de surcharge, de la bande passante, par exemple, de problèmes réseau ou d'incidents de sécurité, par exemple. Éprouver ces systèmes, pour finir, permettra d'évaluer la capacité de réponse de son entreprise et surtout sa capacité de retour à la normale, qui est critique en cas d'incident avéré. On l'a vu ces derniers temps dans la presse, personne n'est épargné par les problématiques de résilience opérationnelle, de résilience informatique. De nombreuses entreprises y sont exposées et ont des difficultés dernièrement parce qu'il y a des attaques, des incidents de sécurité. Je pense par exemple à le cas récent d'une mutuelle dont les opérations sont arrêtées depuis maintenant 2 semaines suite à un incident de sécurité, et qui éprouvent des difficultés qui, on peut l'imaginer, sont liées à une préparation qui est potentiellement insuffisante en matière de résilience des systèmes d'information. Donc, les impacts lorsque la résilience n'est pas une priorité, ils sont multiples. Donc, ils ont plusieurs causes, que sont une incapacité à valider les relations, les interdépendances entre les fonctions métiers, les fonctions opérationnelles et le SI, les applications, les systèmes divers. Une incapacité finalement à pérenniser et à maintenir ces relations, donc avoir une vue claire, un panorama, un inventaire de ces différents actifs. Et pour finir, des difficultés à communiquer de façon efficace sa posture de risque, et finalement des fonctionnements qui sont des fonctionnements en silo, que ce soit au niveau des DSI, au niveau des directions des métiers, pour une information sur le risque informatique qui ne remonte pas à un niveau suffisamment fin au niveau des strates managériales et de la direction générale. Donc, donc lorsque la résilience n'est pas une priorité pour l'entreprise, on le voit et on l'illustre ici par un certain nombre d'exemples. Les entreprises en cours font face à des difficultés, à des opérations qui sont en danger, et ce qui peut générer des pertes opérationnelles, voire conduire à une atteinte à la réputation de la marque, à des sanctions parce qu'il y a des exigences réglementaires notamment. Et pour finir, à des pénalités. Donc, on illustre ici par quelques cas. Donc, vous avez par exemple un cas pour une banque qui, il y a quelques années, n'a pas réussi à maintenir un système de gestion des changements suffisamment robuste, ce qui a conduit à une amende de 42 millions de livres. Hein, c'est une banque anglaise. Plus récemment, des acteurs comme Amazon, par exemple, ont pu subir des pannes de cloud public qui ont affecté les clients. Et quand on fait des REX, quand on analyse toute la chaîne, on se rend compte que la perte, elle est estimée à 310 millions d'euros. Récemment, on a vu, pour revenir sur le sujet de la cyber-résilience et de la sécurité des hôpitaux, notamment l'hôpital de Dax, l'hôpital de Villefranche, dont les opérations ont été arrêtées suite à un incident de sécurité. Ou un autre exemple peut être celui d'une compagnie aérienne qu'on a ici, donc Delta Airlines, dont les activités ont été interrompues pendant 3 jours suite à un problème qui n'était pas pour le coup un problème de sécurité, mais un problème purement opérationnel avec leur système d'information, qui a fait que pendant quelques jours les systèmes nécessaires au cycle de vie d'une compagnie aérienne était complètement bloqué, paralysé et ne permettait pas finalement d'assurer les opérations de façon pérenne. Même si ce qu'on vient de voir, c'est que négliger la résilience des systèmes d'information peut avoir des impacts parfois importants, colossaux, pour les entreprises. Pour autant, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un changement de paradigme, mais finalement, il est de plus en plus clair, et je pense que Romain reviendra là-dessus dans la partie liée aux services financiers, qu'aujourd'hui, les entreprises souhaitent investir et voient cet investissement dans la résilience des systèmes d'information comme bénéfique pour leur activité, à plusieurs égards. Premièrement, parce que investir dans la résilience permet d'avoir une compréhension plus fine, plus claire de la posture de son entreprise et de sa capacité de résilience, ce qui donne du confort en cas de crise, parce qu'on est préparé, parce qu'on a déjà fait des exercices, parce qu'on a une vision claire des applications, je dirais, vitales à notre activité. Parce qu'on connaît aussi l'impact d'un incident et qu'on est plus à même de qualifier rapidement l'impact de cet incident. Donc typiquement, ce qu'on se dit en tant qu'entreprise, c'est que si mes opérations s'arrêtent, je sais que je suis capable de reprendre mon activité Je suis capable aussi de protéger les actifs clés, ma donnée clé, parce que je l'ai déjà identifiée et je sais pertinemment ce qui est critique pour mon entreprise et pour mes clients. Donc, en résumé, ce qu'on voit, c'est que cette résilience des systèmes d'information, elle permet de comprendre les systèmes à risque, de les identifier. Elle permet aussi, parce qu'on a fait cet exercice préalable, parce qu'on est dans un exercice d'anticipation, de réduire les temps d'arrêt et finalement d'assurer un retour à la normale le plus rapide possible. Elle permet, et c'est particulièrement vrai dans des secteurs très réglementés comme la banque, de répondre à des exigences légales. Je pense notamment aux directives NIS, au RGPD, mais également à DORA dans la banque, dont nous parlerons plus tard. Finalement, ce qu'on dit, c'est que investir dans la résilience, c'est finalement faire d'une pierre deux coups et traiter, au-delà des aspects opérationnels, des problématiques de conformité qui se posent parce que les régulateurs de diverses industries se sont eux aussi posé cette question et exigent du panel d'entreprises qui couvrent de se mettre en ordre de marche. Pour finir, il y a aussi un autre aspect qui est l'un des bénéfices et qu'on a particulièrement observé durant cette crise de la COVID-19, qui est la flexibilité du travail. Donc, de plus en plus, donc ça paraît assez trivial maintenant quand on le dit, on travaille tous en télétravail, on est de plus en plus flexible. Les entreprises se sont dotées de VPN, même celles qui finalement étaient contre ces pratiques, ils sont allés à marche forcée et aujourd'hui sont tout à fait en mesure de travailler de façon flexible. Et c'est a priori donc une tendance qui est que l'on observe en matière de résilience des systèmes d'information, qui va être pérennisée et qui bien sûr est à l'agenda des directions générales. Ce dont Romain, à qui je vais laisser la parole, va vous parler.
Merci Nicolas. Alors, effectivement, quelle tendance observons-nous aujourd'hui sur le sujet et finalement, quels sont les sujets de préoccupation, de place autour des enjeux de résilience? Alors, le premier message, je crois que c'est déjà un message très important, c'est que le sujet de résilience est un sujet de niveau direction générale qui préoccupe à tous les niveaux, bien sûr. Pourquoi? Parce que, c'est ce que Nicolas nous a expliqué, il peut entacher très rapidement l'image de marque et créer une crise de confiance. Une crise de confiance vis-à-vis du marché, une crise de confiance vis-à-vis de ses clients, de ses actionnaires. Donc, on a identifié 4 points clés qui sont sur... affiché à l'écran, 4 tendances de fond. La première, c'est la réglementation, la vague réglementaire. Et on observe tous les jours un certain nombre de nouvelles exigences à prendre en compte, de nouveaux textes qui touchent en pratique toutes les industries, tous les acteurs, notamment, bien sûr, dans les secteurs régulés. Donc moi, je vais vous parler un peu plus tard de l'exemple du secteur bancaire qui, aujourd'hui, connaît une actualité réglementaire riche sur le sujet. Le deuxième point, la deuxième tendance, c'est ce qu'on a appelé la surveillance accrue du board. On observe une sensibilité très forte, je dirais même une sensibilité de plus en plus forte des instances de gouvernance aux enjeux de résilience opérationnelle de façon générale et notamment de résilience informatique avec une préoccupation de fond, ne pas faire la une des médias, ne pas être le premier à qui ça arrive via les réseaux sociaux ou par voie de presse. La troisième tendance, c'est la dépendance aux solutions cloud. Conséquence de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont accéléré leur programme de transformation digitale, avec notamment, bien sûr, des migrations de plus en plus nombreuses vers le cloud. Et je vais prendre un chiffre très parlant. On a observé 70% de hausse des dépenses DDSI consacrées au cloud en accélération dans le contexte de la COVID-19. Donc, c'est un chiffre qui parle de lui-même. Et tout ça, évidemment, ça pose des questions. Ça pose des questions de responsabilité en cascade et ça pose des questions de bonne appréciation de l'évolution de son profil de risque et de son risque de résilience, je dirais, de bout en bout, tenant compte de tous les tiers qui interviennent dans la filière SI, notamment en cas de survenance d'un incident cyber ou même d'une erreur chez un prestataire. Et le dernier point, c'est bien sûr l'augmentation du nombre de logiciels malveillants qui peut avoir aussi là un impact opérationnel évident et qu'il faut savoir appréhender. Donc, fort de ces quatre grandes tendances, alors on pourrait développer, mais fort de ces quatre tendances, les principaux enjeux à considérer en lien avec la résilience des systèmes d'information, c'est déjà d'adapter, et je pense qu'aujourd'hui, les principaux établissements l'ont fait, adopter une approche de résilience des SI cohérente, qui soit proportionnelle à la taille des activités, et d'assurer le fonctionnement, je dirais, régulier de cette résilience sur toutes ces dimensions. Et ça, c'est un point très important. Toutes ces dimensions, c'est les aspects people, process et technologie sur toutes les composantes, et de le tester sur une base régulière, et ce qui permet de savoir finalement où on en est, ce qu'on doit encore améliorer, et de pouvoir communiquer sur cette base. Alors, je vais vous prendre un exemple sur le secteur bancaire, maintenant, parce que c'est un secteur qui est effectivement intéressant à observer. Alors, quels enjeux observons-nous aujourd'hui? Alors là aussi, à la faveur de la crise sanitaire, bien sûr, et pas que en France, partout en Europe, les banques, elles aussi, ont majoritairement accéléré leur transformation digitale avec, par exemple, des décisions de revoir certains delivery models, plus d'outsourcing, des décisions vers plus de move to cloud ou du recours à des nouvelles technologies, ce qui crée plein de choses, notamment de fortes interdépendances avec des tiers et fait craindre de la montée en puissance des incidents opérationnels, des cyberattaques. Donc, dans ce contexte, 2019-2020 ont été des années riches d'un point de vue réglementaire pour les banques, sur la gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication et des aspects de sécurité. Et nous savons que toutes les banques aujourd'hui travaillent sur le sujet. Alors, ce n'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui s'est intensifié et où ont prévu d'y travailler et on observe différents niveaux de maturité. Ce qu'on observe en discutant avec les différents établissements bancaires, c'est que la gestion du risque informatique et avec au cœur du sujet la résilience, est à l'agenda des DSI, des RSSI, des directeurs des risques et bien sûr des directions générales qui, de plus en plus, devront démontrer leur appropriation du sujet au-delà même d'une sensibilisation. Alors, trois faits marquants, et le premier est affiché sur le slide, trois faits marquants en 2019-2018. Le premier, c'est les autorités européennes de supervision, le BA, l'ESMA, les IOPA, qui se sont de plus en plus concentré sur le risque lié aux technologies de l'information et de la communication et à la sécurité de l'information. Et on vous affiche sur ce support un exemple, c'est la publication des orientations finales de l'IBA fin 2019, en vigueur depuis juin 2020. Ces orientations, elles suivent quatre principes clés qui visent à donner aux établissements bancaires une démarche, à les inciter à réfléchir à une démarche de gestion des risques qui soient adaptés à leur taille, à leur contexte et à leur spécificité, avec essentiellement une vision de non prescriptive, c'est-à-dire c'est des grands principes qui sont donnés, une incitation à réfléchir à la proportionnalité pour avoir des mesures adaptées à sa taille, à ses métiers, à son organisation, et une approche qui se veut être holistique. Ces orientations, vous le voyez ici, elles couvrent 9 grands domaines, donc c'est très riche, y compris, bien sûr, des sujets qui touchent aux aspects de résilience des systèmes d'information. Vous les voyez à l'écran, gestion de la continuité des activités, plan de réponse et de reprise, communication en situation de crise ou gestion des opérations TIC, enfin, technologie, information et communication. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le comité de Bâle a publié en août 2020 des principes spécifiques sur la résilience opérationnelle avec 7 domaines, dont un lié à la gestion des technologies de l'information et de la communication. Et puis, le dernier point, bien sûr, et je vais y venir dans un instant, c'est la présentation en septembre 2020 par la Commission européenne de propositions législatives qui comprennent notamment un projet DORA, un projet de règlement sur la résilience opérationnelle numérique, dont je vais vous dire maintenant un petit mot. Donc, DORA vise à renforcer la résilience opérationnelle numérique dans le secteur financier. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle la définit. Elle l'a définie comme la capacité des entreprises à s'assurer qu'elles peuvent résister à tout type de perturbation, tout type de menace liée aux technologies de l'information et de la communication. De ce point de vue, DORA vise à mettre en place, plus que ça ne l'était, un cadre détaillé, un cadre complet sur la résilience opérationnelle numérique pour les institutions financières de l'Union européenne. Pour la première fois, finalement, on passe d'une orientation, puisque l'IBA, ce que je vous ai présenté avant, c'était des orientations, un cadre législatif. Donc, DORA rassemblera les règles relatives à la gestion des risques liés aux technologies d'information et de la communication dans le secteur financier dans un seul acte législatif. Étant précisé, bien sûr, là aussi, que ces exigences seront appliquées de manière proportionnelle en fonction de la taille et des activités. DORA met aussi l'accent sur la nécessité de faire évoluer son approche en matière de gestion des risques vers une approche plus large, plus proactive, qui intègre notamment la nécessité de répondre et de se rétablir lors d'une crise. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et puis en outre, DORA constituera aussi le premier cadre de surveillance au niveau de l'Union européenne qui permettra d'identifier, de superviser les prestataires de services en technologie de l'information et de la communication jugés critiques pour les institutions financières. Et ça, c'est aussi une vraie nouveauté, et elle sera cette identification basée sur un certain nombre de critères liés notamment à l'impact systémique de ces prestataires. Donc, on peut imaginer que des grands cloud service providers de type Amazon ou autres seront demain soumis à la surveillance des autorités européennes, même s'ils ne sont pas issus de l'industrie des services financiers. Vous le voyez à l'écran, en pratique, DORA identifie 6 grands volets essentiels que les institutions financières doivent prendre en compte. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais juste quelques points importants. Les aspects de gouvernance qui sont absolument clés, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de résilience numérique, l'harmonisation du processus de reporting des incidents majeurs et centralisation auprès d'une instance européenne unie. Il y en a d'autres, vous les voyez, je ne vais pas les détailler, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que c'est un sujet de place. La CPR, lors de sa conférence du 27 novembre dernier, en a parlé avec deux messages. Le premier, c'était de préciser que même s'il s'agit d'une proposition législative en cours d'adoption, les points de DORA sont clairs et sont et représentent des avancées notables. Et le deuxième point, c'est que la CPR a encouragé l'ensemble des institutions financières à prendre connaissance du texte et à engager dès à présent une auto-évaluation et à identifier les chantiers à lancer au regard de ce texte. Voilà, donc je dirais qu'en conclusion, sur cette partie un peu bancaire, sur ce volet bancaire, toutes ces évolutions sont finalement les bienvenues car elles permettent aux institutions financières de mieux identifier les menaces et de progresser dans leur dispositif de gestion des risques et de renforcement de leur résilience des systèmes d'information. Et c'est un vrai travail de fond. Voilà, je laisse maintenant la parole à Jean.
Alors, pour conclure, très rapidement avant la session de Q&A, donc, on voulait revenir vers vous avec la façon dont on estime qu'il est opportun, d'appréhender la résilience des SI. Donc, quelles seraient, les bonnes pratiques ou les étapes à mener, justement, pour faire un état des lieux et surtout viser à renforcer la résilience des SI et les risques qui y sont associés? Alors, l'approche est relativement simple. On en a parlé, Nicolas a fait un focus. Notamment, le premier point, ça va être d'identifier et de classer toutes vos applications, services ou infrastructures critiques. Et avec une intégration de vos prestataires, puisque la plupart maintenant des services impliquent des sous-traitants. Et comme le disait Romain par rapport justement au secteur bancaire, aux prestations essentielles externalisées, il faut prendre en compte les interactions, les interdépendances avec ces tiers. Ensuite, il va s'agir justement de mesurer l'impact, justement en lien avec la dimension métier et la perturbation, perte de revenus ou autre aspect qui, mènerait à bien coter la survenance de ce risque, donc l'impact. Enfin, il va falloir justement mettre en face donc de ces perturbations, de ces risques tels qu'identifiés, des moyens de réponse. Et donc là, il va s'agir de développer et d'évaluer sinon les dispositifs existants pour voir s'ils sont capables de répondre aux perturbations envisagées internes, externes, et donc d'avoir les réponses adaptées d'un point de vue toujours humain, sur les processus, en lien avec les technologies. Et toujours en gardant la vision de l'écosystème, des partenaires, donc de ces tiers. Après avoir mappé et, je dirais, mené cette analyse, il va falloir faire émerger justement des forces et des faiblesses pour définir classiquement un plan d'action afin de renforcer la résilience. Et donc, pour mener ces différentes étapes, la logique consiste effectivement à réaliser un diagnostic de maturité dans sa globalité, donc de la résilience du SI, pour voir justement si les dispositifs tels qu'ils sont mis en place permettent justement de faire face à tous ces types de perturbations. Avec des focus potentiellement cyber, on parlait de cyber-résilience, mais comme on le disait, les perturbations, que ce soit la sinistralité ou l'erreur en matière d'exploitation, sont purement, sont pas liées à des aspects cyber, mais on peut aussi adresser spécifiquement la cyber-résilience, et on en parlait notamment par rapport à tous les sujets d'actualité, attaque, ransomware, et donc ça prend sens. Et donc, avoir ces compétences pour réaliser ce diagnostic est, l'élément clé. Et nous, par exemple, nous travaillons aussi avec des experts en matière de gestion de crise, cyber, sur les infrastructures, sur la partie cloud, pour avoir cet aspect global du mapping, justement, de la résilience. Donc, voilà pour conclure. On va passer, si vous voulez bien, à la partie donc Q&A. Alors, on a quelques questions donc qui sont arrivées et qui nous avaient déjà été transmises en amont. Donc, notamment, donc, une première question qui nous demande comment gérer la résilience avec les tiers, justement. Comment garantir la résilience de bout en bout sur mes processus, y compris sur la partie externalisée. Donc, Nicolas, si tu veux justement répondre à cet aspect-là.
Ouais, effectivement. Donc, c'est un point que tu évoquais et je pense qu'on a tous évoqué dans chacune de nos parties, hein, de cette présentation. Donc, aujourd'hui, donc, le sujet, c'est que finalement, les entreprises sont face à un système d'information qui est fortement hétérogène, donc des solutions cloud, des solutions internes. Et souvent, la question qu'on se pose, c'est finalement, comment je m'assure, j'ai défini mes propres exigences de résilience, de sécurité, de robustesse des systèmes d'information. Comment vais-je m'assurer que les tiers avec qui je travaille, les solutions cloud qui sont critiques à mon activité, se conforment à ces exigences. Ce qu'on observe chez nos clients, hein, c'est qu'il n'y a pas une façon unique de procéder, mais bien souvent, on observe des pratiques de gestion des risques tiers, qu'on peut appeler de third party risk management, qui passent par, évidemment, donc des audits ponctuels de ces tiers, qui passe également par des programmes avec des questionnaires, des tests de résilience sur base d'échantillons assez simples, hein, finalement, pour confirmer et donner du confort à l'entreprise utilisatrice quant à la capacité de l'entreprise fournisseuse qui fournit des services de répondre aux exigences de résilience. Donc c'est effectivement un sujet de place dont on entend parler très fréquemment, hein, dans toutes les industries. Dernièrement, j'ai été sollicité par un client sur ce sujet dans le secteur public, mais je pense également à des exemples dans le secteur bancaire notamment où ce risque est de plus en plus identifié. Donc je ne sais pas, Jean, hein, si vous voulez compléter.
Non, merci Nicolas. Non, je pense je propose justement qu'on passe à d'autres questions dans le temps qui nous reste pour cette webcast. Là, une question beaucoup plus axée, je reviens sur le secteur bancaire avec, pour toi, Romain. Donc, c'était quelles évolutions de fonds observez-vous chez vos clients bancaires avec la prise en compte de ces exigences réglementaires récentes sur le sujet de résilience?
Alors, merci Jean. Bon, c'est une bonne question. Alors, je dirais qu'on observe plusieurs tendances, plusieurs choses. La première chose qu'on observe, c'est un renforcement des lignes de défense avec des investissements importants qui ont été faits, investissements en matière de recrutement, hein, bien sûr, et d'outillage. Associé à ça, une définition du temps passé à la bonne définition des rôle et responsabilité entre les lignes de défense, sur les différents contrôles, avec la volonté d'avoir une deuxième ligne de défense qui soit vraiment en capacité de challenger la première. On voit aussi le sujet autour de la résilience et des technologies de l'information, de la communication et de sécurité être sous la responsabilité des risques opérationnels et rattaché de façon directe au patron des risques opérationnels. Ça, c'est aussi quelque chose de plus systématique. Le troisième point qu'on voit, c'est que ces risques autour des aspects de système d'information doivent faire partie intégrante de la méthodologie de la cartographie des risques opérationnels et être traités de façon complètement intégrée. Et puis, la dernière chose qu'on voit, c'est quelque chose d'intéressant à observer, c'est la communication qui est faite et la consolidation d'informations sur le niveau de maturité et donc tout ce qui touche au reporting. Le reporting, il avait déjà évolué avant, c'est des nouveaux textes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on voit que on peut avoir une première ligne qui est très forte avec un ensemble d'indicateurs et la deuxième ligne qui reprend la main avec... en s'appropriant les indicateurs de la première ligne, en les challengeant, en étant capable de les vérifier, d'en mettre de nouveaux avant de les présenter à des niveaux de direction générale. Donc, c'est ce que j'appelle une appropriation très forte par les différents niveaux de défense et par la direction générale également, avec cette volonté d'avoir une approche vraiment holistique du sujet. Ça, c'est typiquement le type de choses qu'on observe dans tous les établissements aujourd'hui, en tout cas des questions ou des chantiers qui sont lancés sur ces sujets-là. Voilà ce que je peux dire sur le sujet.
Merci Romain. Alors là, je vois aussi une troisième question qui vient d'arriver, là j'y réponds, c'est qui doit s'occuper de la résilience donc de SI dans l'entreprise? Alors, tu soulignais effectivement, Romain, que c'est un sujet qui est aussi adressé donc par la direction générale ou par le board, mais d'un point de vue, je dirais, au quotidien, qui va traiter effectivement du sujet de la résilience des SI? Alors, je dirais qu'on parlait effectivement, la résilience des SI, ça fait partie des risques IT à mettre sous contrôle. Donc, bien évidemment, donc une fonction de risk management va traiter du sujet, s'assurer notamment qu'on a bien un dispositif de maîtrise des risques qui permettent de garantir en tout cas les aspects de résilience. On va voir, pour moi, en lien avec le Risk Manager, le RSSI, pour traiter de la partie, notamment cyber-résilience, puisqu'il y a un sujet prééminent en la matière. Enfin, la direction d'audit interne, dans sa fonction régalienne, au titre, je dirais, du contrôle périodique, va aussi, normalement, s'intéresser à la résilience des SI et mener un audit, justement, pour s'assurer du dispositif tel que mis en place. Donc ça, c'est plutôt au niveau des fonctions, je dirais, autour des lignes de maîtrise, mais d'un point de vue ensuite opérationnel, bien évidemment, c'est plutôt au niveau de la direction des systèmes d'information qu'on va retrouver les acteurs principaux qui vont être en charge de la résilience des SI. Alors, ça va être le DSI en lui-même, mais on peut avoir effectivement des responsables en matière, je dirais, d'exploitation du système d'information, des personnes qui vont travailler aussi sur la partie gestion des incidents et des problèmes pour traiter justement la survenance des perturbations, quelles qu'elles soient, que ce soit un incident d'exploitation, un incident justement de sécurité, faire toujours le lien aussi avec certains cas que le RSSI. Donc, c'est plutôt ces fonctions, selon la structuration de la DSI, qui vont ensuite s'attacher, je dirais, à la résilience au quotidien et à garantir la résilience, que ce soit aussi avec des départements qui peuvent traiter de l'architecture du SI, puisque la redondance de système, l'architecture robuste du réseau va permettre justement aussi de garantir et de prémunir l'organisation contre justement des problèmes. Donc là, c'est plutôt un lien entre des fonctions plutôt, je dirais, en lien avec les lignes de maîtrise, on parle de gestion des risques, audit interne, et ensuite, je dirais, des opérationnels au niveau donc de la DSI, selon la structuration de l'entreprise. Voilà. Bon, alors, on a peut-être encore un créneau pour une dernière question. Quand on regarde en fait les questions posées par les intervenants, alors, est-ce que la résilience des SI revient à réaliser un BIA, donc un Business Impact Analysis, BCP ou DRP, donc Disaster Recovery Plan? Donc là, je ne sais pas, Nicolas, si tu veux qu'on y réponde de façon collégiale. Alors, moi, je dirais que c'est que la résilience des SI...
Je vous laisserai compléter tous les deux, mais je pense qu'effectivement, préparer un BIA, c'est un bon exercice et ça répond en partie à ces exigences de résilience. Pour autant, je dirais que ce n'est pas un exercice qui est autosuffisant. dans la mesure où finalement la résilience, c'est d'abord un sujet, ce qu'évoquait Jean, hein, opérationnel, de renfort des opérations informatiques, des infrastructures informatiques. Donc c'est finalement le sujet du quotidien. Après, pour autant, le BIA permettra de faire un travail sur finalement les actifs et les risques auxquels sont exposés ces actifs informatiques. Mais en amont de ce travail, subsiste un premier travail de réalisation d'inventaire d'actifs informatiques, d'identification précise, puisque finalement, si je ne fais pas ce travail-là, j'ai un risque de préparer un BIA qui soit incomplet, voire pas pertinent.
Toujours une question qui fait écho à cette première, qui est: est-ce que la résilience des SI est la même chose que la continuité d'activité? Alors non, c'est différent, puisqu'en fait, la résilience, elle doit être très en amont, autour donc du système d'information. On parlait de l'architecture, des processus qui permettent de répondre justement à des perturbations quelles qu'elles soient. L'activation de la gestion de crise et in fine d'un plan de secours informatique ou d'un PCA doit arriver en dernier recours. C'est réellement un dispositif amont qui doit garantir la résilience pour éviter justement de rentrer dans l'activation d'une gestion de crise d'un plan de secours. Donc on est réellement sur tous les mécanismes amont de détection, enfin même de prévention, de détection et de traitement, je dirais, de tout incident sinistre qui peut survenir. Je ne sais pas si Nicolas, Romain, vous voulez ajouter quelque chose sur cet aspect-là.
Non, c'est clair. Enfin, je pense que tu as dit.
C'est très clair. Tout est dit.
Alors, donc, nous sommes arrivés, là, on en a un peu débordé, donc en fin de session. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette session. Juste, si vous voulez rester connecté pendant quelques secondes avant de nous quitter, par rapport justement au questionnaire satisfaction dont je parlais précédemment, et si vous était possible donc de le renseigner pour nous aider effectivement donc à la fois dans un processus d'amélioration continue et pour être sûr que nous traitons bien de vos questions. Voilà.